Vous écoutez On lit pour vous.
Des manuels de langue autochtones complètement bidons. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 29 janvier 2025 dans la presse. Qui serait tenté d'apprendre une langue rare pour constater qu'une fois mise en application, ces phrases n'ont aucun sens? Pas grand monde. Mais c'est pourtant ce que proposent des manuels linguistiques, vraisemblablement générés par intelligence artificielle, IA, vendus sur Amazon. Une situation qui consterne des linguistes, ainsi que les communautés autochtones, dont les dialectes sont victimes de cette imposture. Pour 9,70 $, il est possible d'acquérir sur Amazon l'ouvrage « Inuktitut to English Phrasebook, Everyday Common Words and Phrases » publié par l'obscure maison d'édition Phoenix Sun. Pour qui ne maîtrise pas la langue des Inuits, le manuel d'apprentissage semble classique, enchaînant des phrases courantes telles que « Comment allez-vous ?» avec une version en caractère Inuit suivie d'une transcription phonétique en alphabet latin. Le souci, c'est que ces formules ne signifient strictement rien. La maison d'édition est dépourvue de site web et impossible à joindre, même par l'intermédiaire de la plateforme Amazon. Ces formes en Inuktitut n'ont aucun sens et certaines combinaisons de sons ne sont même pas possibles, comme un N en fin de mot ou une suite de trois voyelles, par exemple dans Pouaï, prévient le professeur Richard Compton du département de linguistique de l'UQAM, spécialiste de l'Inuktitut. Même si la langue inuite se décline en plusieurs dialectes, aucun de ceux-ci ne correspond au texte proposé. Quand j'ai ouvert le livre, j'ai essayé de lire les phrases, mais elles n'avaient absolument aucun sens. Quel que soit le dialecte, confirme Tomasi Mangiok, designer graphique appartenant à la communauté Inuit et résident d'Ivoujivik, au Nunavik, qui s'est retrouvé avec l'ouvrage entre les mains. C'est comme si j'essayais de parler anglais et que je disais « kaku, 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 tapa ». En outre, des utilisateurs d'Amazon s'interrogent ou tentent de désamorcer l'arnaque dans les commentaires liés à l'article en vente. C'est du charabia. En tant qu'Inuk, lisant les caractères syllabiques Inuktitut, ces mots n'ont aucun sens, avertit encore l'un d'eux. Un char de charabia. Cet exemple n'est que la pointe d'un iceberg frauduleux qui plonge et refait surface plus loin. En effet, plusieurs de ces ouvrages auto-édités, censés décortiquer des langues autochtones ou plus courantes, apparaissent soudain sur Amazon avant de disparaître. Fin 2024, le média d'information autochtone canadien APTN News a épinglé l'un de ces manuels douteux. The Most Frequently Used Plains Cree Adjectives, prétendant recenser et expliquer des séries d'adjectifs issus du cri des plaines. Or, il était truffé de mots et de formes invraisemblables, en plus d'être signé par un prétendu linguiste, inconnu du milieu restreint des spécialistes de ce dialecte. Passé à la moulinette de trois détecteurs d'intelligence artificielle, le livre a systématiquement été déclaré positif. Interrogé par le réseau APTN, le géant Amazon s'est contenté de retirer le manuel de sa plateforme sans commentaire. En marge, des groupes de linguistes et de spécialistes publient dans les réseaux sociaux divers exemples d'impostures présumées pour les discréditer, en débattre ou les dénoncer. C'est d'ailleurs dans ces forums que Richard Compton a pris conscience du phénomène. On peut voir les aperçus des pages de plusieurs de ces manuels et les gens boguaient beaucoup sur ceux portant sur les adjectifs, car beaucoup de langues, comme le Mohawk, en sont dépourvues, rapporte l'universitaire, qui a de forts soupçons au sujet de la série « Getting Started With » avec ses noms d'auteurs, systématiquement stéréotypés, confinant au ridicule. Celui qui aurait rédigé le livre sur le latin s'appelle « Marcus Caius », souligne-t-il. Par ailleurs, il a également perçu des énormités dans des méthodes d'apprentissage du français, telles que la phrase « Comment maintenant, vache brune ?» apparemment la traduction littérale de l'expression « How now, brown cow ?» employée en anglais comme exercice d'élocution. Bref, autant de signes laissant supposer qu'une IA serait passée broutée par là. Particulièrement choquant. Cette situation a provoqué une certaine consternation au sein des communautés autochtones, à tout le moins chez les Inuits, témoigne Thomasy Mangioc. Nous sommes une minorité et nous prêtons une grande attention au peu de ressources à notre disposition et à leur qualité. Quand des manuels frauduleux apparaissent sur Internet juste pour faire de l'argent sur le dos d'une communauté minoritaire, c'est particulièrement choquant, rapporte-t-il. Selon Richard Compton, professeur au département de linguistique de l'UQAM, pour le français, il y a énormément de ressources en ligne, mais ici on parle de communautés qui font de gros efforts pour préserver, promouvoir ou réapprendre leur langue. Ils ont subi une colonisation, les pensionnats où il leur était interdit de la parler, il y a un manque de financement pour l'apprentissage des langues autochtones partout au Canada, renchérit M. Compton. M. Mangioc et d'autres Inuits ont contacté Amazon pour signaler le problème, non résolu à l'heure d'écrire ces lignes. Ils plaident pour un mécanisme de contrôle et de vérification en amont de la part du géant du Web. Désamorcer l'arnaque. Si le caractère insensé des langues dans ces livres saute aux yeux de leurs locuteurs, il est bien moins évident pour les néophytes. Comment s'assurer de ne pas tomber dans le piège? Il s'agit de bien contrôler la crédibilité de l'éditeur et de privilégier les parutions universitaires reconnues. M. Mangioc conseille de s'adresser aux instituts culturels autochtones, Avatak, dans le cas Inuit, pour obtenir des recommandations. Les commentaires des clients peuvent aussi être utiles, tout comme l'absence ou la non-pertinence du numéro d'identification unique ISBN. C'était des manuels de langues autochtones complètement bidons, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 29 janvier 2025 dans la presse.
Les années 2023 et 2024 ont dépassé le seuil de 1,5 degré centigrade de réchauffement. Un texte de Julien Miviel et Agnès Pedrero de l'agence France-Presse, paru le 10 janvier 2025 dans Le Devoir. Du jamais vu dans l'histoire moderne, la température moyenne des deux dernières années a dépassé la limite de 1,5 degré centigrade de réchauffement fixée par l'accord de Paris, poussant l'ONU à réclamer une action climatique novatrice. 2024 est la première année au-dessus du seuil de 1,5 degré centigrade de réchauffement, avec une température moyenne à la surface de la planète supérieure de 1,55 degré centigrade, avec une marge d'incertitude de plus ou moins 0,13 degré centigrade, à la moyenne de la période 1850-1900, selon une analyse de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, une agence de l'ONU se basant sur 6 grandes bases de données internationales. Le record de chaleur de 2024, couronnant une décennie extraordinaire de températures records, selon l'OMM, exige une action climatique novatrice en 2025, a exhorté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. L'année 2024 a bel et bien été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des statistiques en 1850, a lui aussi souligné vendredi l'Observatoire européen Copernicus. Un bilan qui intervient à quelques jours du retour au pouvoir de Donald Trump, ouvertement climato-sceptique à la tête des États-Unis, deuxième pollueur mondial. Et alors même que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, principale responsable du réchauffement, marque le pas dans certains pays riches, d'après de premières estimations. Selon Copernicus, la seule année 2024, mais aussi la moyenne des deux années 2023-2024, a dépassé 1,5 degré centigrade de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, avant que l'utilisation massive du charbon, du pétrole et du gaz fossile ne modifient en profondeur le climat. Il est important de souligner qu'une seule année à plus de 1,5 degré centigrade ne signifie pas que nous avons échoué à atteindre les objectifs de température à long terme de l'accord de Paris, lesquels portent sur des décennies, a relevé la secrétaire générale de l'OMM, Céleste Solo. Mais cela souligne le fait que les températures mondiales grimpent au-delà de ce que les humains modernes ont connu, indique Copernicus. En effet, le réchauffement du climat actuel est inédit depuis au moins 120 000 ans, selon les scientifiques. Dévastateur. Derrière ces chiffres se cache déjà une série de catastrophes exacerbées par le changement climatique. 1300 morts en juin lors de chaleurs extrêmes pendant le pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite, inondations historiques en Afrique de l'Ouest et centrale, ouragans violents aux États-Unis et Caraïbes. Et début 2025, les incendies de Los Angeles les plus dévastateurs de l'histoire de Californie, selon les mots du président américain Joe Biden. Les États-Unis ont d'ailleurs rejoint la liste des pays à avoir annoncé leur propre record de chaleur pour 2024, une année marquée sur le sol par des tornades et de puissants ouragans comme Helene. Sur le plan économique, les catastrophes naturelles ont causé 320 milliards de dollars, 312 milliards d'euros, de pertes dans le monde l'an dernier, selon le réassureur Munich Re. Après la fin, l'an passé, du phénomène naturel El Niño, qui induit un réchauffement planétaire, le phénomène inverse, la Niña, devrait contribuer en 2025 à un léger refroidissement des températures. L'OMM a toutefois prévenu en décembre que ce dernier serait court et de faible intensité et insuffisant pour compenser les effets du réchauffement. L'année 2025 ne s'annonce donc pas comme record, mais elle pourrait être l'une des trois plus chaudes enregistrées, a prévenu Gavin Schmidt, climatologue à la NASA, l'agence spatiale américaine. L'Office météorologique britannique a également fait une projection en ce sens. 2025 doit aussi être marqué par l'annonce par les pays de nouvelles feuilles de route climatiques remises à jour tous les 5 ans dans le cadre de l'accord de Paris. Surchauffe durable. Contenir le réchauffement à 1,5 degré centigrade plutôt qu'à 2 degrés centigrades, la limite haute de l'accord de Paris, permettrait de limiter significativement ses conséquences les plus catastrophiques, selon le GIEC, le groupe d'experts du climat mandaté par l'ONU. Les océans, qui absorbent 90 % de l'excès de chaleur provoqué par l'humanité, ont aussi poursuivi leur surchauffe, tant à la surface qu'en profondeur. La moyenne annuelle de leur température de surface, hors zone polaire, a atteint le niveau inédit de 20,87 degrés centigrades, battant le record de 2023. Outre les impacts immédiats des canicules marines sur les coraux ou les poissons, cette surchauffe durable des océans, principaux régulateurs du climat terrestre, affecte les courants marins et atmosphériques. Des mers plus chaudes libèrent davantage de vapeurs d'eau dans l'atmosphère, fournissant de l'énergie supplémentaire aux typhons, ouragans et tempêtes. La COP 29 de Bakou, la dernière grande conférence de l'ONU sur le climat, a difficilement accouché en novembre d'un nouvel objectif pour la finance climatique, mais est restée quasi muette sur les ambitions de baisse des gaz à effet de serre et en particulier la sortie des énergies fossiles. C'était les années 2023 et 2024 ont dépassé le seuil de 1,5 degré centigrade de réchauffement. Un texte de Julien Miviel et Agnès Pedrero de l'agence France-Presse paru le 10 janvier 2025 dans Le Devoir.
Des solutions de rechange plus éthiques. Un texte de Lisa Dussault paru le 1er février 2025 dans La Presse. Se loger en voyage tout en changeant le monde. Voilà le défi que vous propose de relever ces 6 entreprises touristiques. Elles se veulent des solutions de rechange éthiques aux méga-plateformes de réservation en ligne comme Airbnb et Booking.com. Montrées du doigt pour la crise du logement et le surtourisme, les Airbnb, VRBO et Booking.com de ce monde n'ont pas le monopole de l'hébergement chez l'habitant. Dans les dernières années, plusieurs autres plateformes se sont taillées une place dans le marché tout en promouvant des pratiques plus durables. SocialBnB. SocialBnB propose des aventures qui financent des projets locaux et ce, partout dans le monde. On peut, par exemple, dormir dans une maison de pierre d'un éco-village espagnol, 112 $ par nuit, ou partir étudier les baleines et les dauphins en voilier sur la Méditerranée, 1420 $ pour 7 jours. Il est possible de réserver des nuitées ou des expériences de plusieurs jours dans plus de 30 pays selon la jeune pousse. SocialBnB estime avoir généré plus de 150 000 $ et soutenu plus de 400 projets grâce aux utilisateurs de la plateforme. L'entreprise a notamment été lauréate du concours Awake Tourism Challenge de l'Organisation des Nations Unies. EcoBnB. EcoBnB met de l'avant des hébergements qui répondent à 10 critères écologiques, tels que la réutilisation de l'eau, l'usage d'électricité, la proximité d'aliments biologiques ou locaux, l'accessibilité sans voiture, etc. Présente dans 55 pays, l'entreprise a comme objectif de faire prospérer un réseau encourageant un type de tourisme respectueux de la nature, de l'économie et des communautés locales, peut-on lire en ligne. À Barcelone, par exemple, on peut trouver un appartement de 2 chambres à partir de 90 $ la nuit ou des auberges de jeunesse écolo à 52 $ la nuit. La plateforme est née sous forme de blog dès 2012. Elle estime desservir 2 millions de voyageurs par année. Chaque nuitée permet d'économiser 8 kg de CO2 et 302 litres d'eau, selon les fondateurs. EcoBnB a aussi été lauréate du Awake Tourism Challenge de l'ONU en 2017. Kindred. Pour participer à Kindred, il faut être prêt à échanger sa propre maison. Ce qui différencie la plateforme des autres sites du genre, seuls les membres peuvent l'utiliser avec un système de crédit et de vérification. Kindred permet ainsi des voyages à une fraction du prix dans des villes recherchées telles que Paris, New York ou Amsterdam. Plus de 80 000 maisons dans plus de 100 villes sur la planète sont disponibles. Montréal n'est pas en reste. Une recherche rapide montre que plusieurs propriétaires de la métropole offrent leurs maisons en échange. Chaque hôte fait l'objet de vérifications et 90% des maisons affichées sont des résidences principales, peut-on lire en ligne. Gringo. Vous prévoyez de voyager en France? La plateforme française Gringo pourrait vous plaire. Lancée en 2021, elle compte désormais plus de 10 000 logements éco-responsables au pays et souhaite étendre ses activités ailleurs en Europe. Plusieurs types d'hébergements sont offerts, allant des chalets en montagne aux lieux insolites, en passant par les chambres d'hôtes, les yourtes, les roulottes ou les hôtels. Les hôtes sont sélectionnés et évalués en fonction de 10 critères de durabilité, dont l'accessibilité en transport en commun, la réduction des déchets, la cuisine maison, l'utilisation de produits d'entretien éco-responsables, l'isolation des bâtiments, etc. La jeune entreprise estime être en tête de file des voyages bas en carbone au pays de Molière. Landfolk. Landfolk permet de louer des maisons de vacances triées sur le volet au Danemark, en Norvège, en Suède, en Allemagne, en France et en Italie. La jeune pousse danoise a été fondée en 2021 par 7 anciens collègues d'Airbnb. L'entreprise favorise des hébergements de qualité avec des hôtes passionnés par leur région du monde. Les résidences offrent aussi un accès privilégié à la nature. On y dort bien, on y mange bien, on s'y sent bien, résume la plateforme. Fairbnb. Cette coopérative offre des locations qui financent des projets durables locaux. Il est par exemple possible de louer un appartement avec terrasse dans un manoir seigneurial en Belgique pour 240 $ par nuit, tout en soutenant un projet de plantation d'arbres. La plateforme filtre les hôtes et travaille avec les autorités locales pour s'assurer que la location bénéficie à la communauté, précise le site web. Les hébergements se trouvent essentiellement en Europe et au Royaume-Uni. En fouillant en ligne, nous avons trouvé la plateforme difficile d'utilisation. Raté pour créer un compte, pas de photo pour les locations, etc. Contacté à ce sujet, Fairbnb a expliqué que la coopérative avait traversé une année difficile, mais que des améliorations sont prévues en 2025. C'était « Des solutions de rechange plus éthiques », un texte de Lisa Dussault, paru le 1er février 2025 dans La Presse.
Les 10 découvertes de 2024. La végétation foisonne le long des côtes arctiques. Un texte de Joël Leblanc, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science. Dans les eaux peu profondes des rives de l'Arctique, les algues, petites et grandes, produisent beaucoup plus de biomasse que ce que l'on estimait. Une information cruciale dans cet écosystème qui se réchauffe. Dans un fjord encaissé de l'Arctique canadien, en plein été boréal, l'Amundsen avance très lentement. Le célèbre brise-glace de la garde côtière canadienne, tout équipé pour la recherche scientifique, ne doit pas accrocher le fond. Dans ces moments-là, quand on est près de la côte et que le fond est à moins de 25 mètres sous le navire, le capitaine est bien stressé, raconte en souriant Philippe Archambault. Il progresse tout doucement pour éviter les surprises. Et c'est un handicap pour la recherche, déplore le professeur au département de biologie de l'Université Laval et directeur scientifique d'ArcticNet, le réseau international de recherche sur l'Arctique. Les navires de recherche océanographique de tous les pays sont trop volumineux pour s'aventurer dans les zones côtières peu profondes et y recueillir des données. On connaissait donc très mal ces zones, une situation qui frustrait également ses collègues des autres pays côtiers du Grand Nord. À cause de cela, on considérait que la photosynthèse marine nordique était surtout le fait du phytoplancton et des algues qui croissent sous la glace flottante, tous faciles à observer au large. Ces organismes étant au tout début de la chaîne alimentaire, on les appelle les producteurs primaires, tous les calculs sur l'écosystème arctique étaient basés sur leur abondance mesurée. Et on négligeait les végétaux marins près des côtes par manque de données. Mais c'est chose du passé. Au cours des dernières années, à l'aide de barques et de petits bateaux pneumatiques ou en plongée sous-marine à partir des côtes, les équipes de Philippe Archambault et une quinzaine de scientifiques de 9 pays ont échantillonné et photographié des centaines de parcelles dans les zones peu profondes de l'Arctique afin de cataloguer les espèces qui y vivent et de mesurer leur abondance. Des micro-algues aux forêts de grandes algues, le recensement a fourni une bonne idée de l'étendue des organismes photosynthétiques dans ces zones. Grâce à un nouveau modèle informatique, nous avons pu estimer la part de ces organismes des eaux peu profondes à la production primaire, explique Mathieu Ardina, océanographe au laboratoire de recherche internationale Tekuvik, aussi basé à l'Université Laval, qui a participé aux travaux. Le nouveau portrait des pourtours peu profonds de l'Arctique a été publié en mars 2024 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Nos calculs ont démontré que la production annuelle de biomasse par ces organismes pourrait représenter jusqu'à 35 % de la production primaire du phytoplancton. Ça représente environ 77 millions de tonnes de carbone captées chaque année. C'était une grosse surprise. On ne s'attendait pas à autant, explique Mathieu Ardina. Reste à inclure cette nouvelle donnée dans les budgets de carbone de l'Arctique. Avec l'Arctique qui se réchauffe, la glace qui se raréfie et la lumière solaire qui est de plus en plus abondante pour ces plantes sous-marines, cette production primaire pourrait-elle augmenter aussi? Pas nécessairement, répond Philippe Archambault. Le dégel des côtes accroît l'érosion et la quantité de sédiments qui se retrouvent dans l'océan, ce qui bloque la lumière et nuit à la photosynthèse. On a découvert l'importance de ces algues en même temps que leur vulnérabilité. Les prochaines années permettront de suivre leur évolution dans cet océan changeant. Les scientifiques de l'Amundsen ont encore du pain sur la planche. Ont aussi participé à cette découverte. Rakesh Kumar Singh, Simon Bélanger, Université du Québec à Rimouski. Marcel Babin, Laboratoire Tekuvik, Université Laval. L'Université du Danemark du Sud. Le Centre national de la recherche scientifique, Sorbonne Université, France. L'Université d'Australie occidentale. L'Université Aarhus, Danemark. L'Université de Copenhague, Danemark, l'Université de Virginie, États-Unis, l'Institut norvégien de recherche aquatique, l'Université du Manitoba. C'était les 10 découvertes de 2024. La végétation foisonne le long des côtes arctiques. Un texte de Joël Leblanc, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science.